Bonjour et bienvenue dans les Agités du Fleu numéro 8. Les Agités du Fleu, c'est le podcast Agito qui associe théorie et pratique de classe grâce aux éclaircissements et précisions d'un ou d'une invitée un petit peu spéciale. Alors aujourd'hui, un numéro consacré à la phonétique et au jeu. Et pour m'accompagner dans ce numéro, il y a tout d'abord Pascaline. Ça va Pascaline?
Ben oui, ça va bien. Bonjour. Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Et il y a aussi Seb.
Ça va Seb?
Ça va bien, ça va bien. Salut à tous.
Et enfin, pour notre dossier, on reçoit dans notre studio virtuel Michel Freland-Ricard. Ça va bien, Michel?
Oui, bonjour.
Eh bien, alors, je pense que tout est en place, donc c'est parti directement pour le sommaire.
Alors, cette émission, c'est la troisième qu'on consacre à la prononciation, donc ça commence à faire une belle série. Et comme tu le disais, Fred, on va recevoir Michel Freland-Ricard pour parler de phonétique, mais cette fois de phonétique en jouant. Ça, ce sera notre dossier, et puis on prolongera un petit peu avec notre rubrique pour aller plus loin, dans laquelle on essaiera de vous donner quelques ressources pour essayer de jouer en phonétique dans vos classes. Et c'est parti pour le dossier.
Et oui, donc un dossier avec Michel. Alors Michel, je vais essayer de te présenter un petit peu. Il y a beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses, donc je pense que je vais certainement oublier certaines choses. Déjà, tout d'abord, tu es titulaire d'un doctorat de phonétique et de FLE, où tu as fait le titre de ta thèse, si je ne me trompe pas, c'est « Analyse multilingue des erreurs prosodiques chez l'apprenant étranger, essai de paramétrisation ». On vous mettra le lien dans les notes de l'émission parce que la thèse de Michel est accessible en ligne pour ceux que cela intéresse. Michel, tu as été aussi donc professeur de FLE et de phonétique pendant de nombreuses années en France. Tu as été aussi professeur de linguistique à l'université d'Avignon. Tu as aussi été directrice d'Alliance française en Amérique latine principalement, si j'ai bien compris, Pérou, Mexique. Et actuellement donc tu te concentres sur la formation de formateurs. Simplement, donc de professeur de français. Notamment, tu as fait des formations à Java, Bali, donc à Bangkok, aussi au Cambodge, beaucoup en Asie, donc, il me semble. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Et la dernière était à Katmandou.
Je ne les ai pas toutes données, mais donc principalement en Asie. Ok. Alors on va rentrer directement dans le dossier avec une première question un petit peu spéciale, Michel, parce que c'est une question qu'on a posée dans les deux numéros précédents consacrés à la prononciation. C'était à propos de la phonétique de manière générale, parce qu'il nous semble que la phonétique a un petit peu une place un peu à part dans l'enseignement du FLE. On voulait savoir si tu confirmais cette impression et ce que tu en pensais en fait.
Oui, je confirme. On peut se poser la question à qui la faute. Est-ce que c'est la faute des phonéticiens, des profs, des formateurs, des manuels? Il y a beaucoup de choses. La prononciation, c'est quand même une compétence complètement à part, qu'il faut travailler différemment. C'est plus facile de travailler la syntaxe, le vocabulaire, qu'on pourrait comparer avec du par cœur. On apprend la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire. La prononciation, ça ne s'apprend pas, disons. Il faut vraiment la travailler. Alors, dans les années 60, par exemple, certaines méthodes intégraient la phonétique. Mais ça existe, j'ai beaucoup de temps, beaucoup de trop d'efforts. Moi, j'ai travaillé avec ces méthodes-là, et les résultats étaient souvent médiocres. Dans les années 70, on a complexifié l'enseignement. Les phonéticiens, particulièrement, ont complexifié l'enseignement. Le vocabulaire compliqué de la phonétique décourageait beaucoup de gens. On donnait souvent la primauté au segmental et les traits suprasegmentaux, qui étaient synonymes de « en plus », on pensait qu'ils seraient rajoutés après. On pouvait apprendre la langue et après on apprenait les traits suprasegmentaux.
C'est encore très actuel, non, ça, Michel, de penser qu'on peut apprendre d'abord et puis que lors d'un atelier spécial, on va revenir sur la prononciation.
Malheureusement, c'est encore très actuel. Et puis, ce qui a vraiment tout abîmé, disons, dans l'enseignement, dans la didactique de la prononciation, c'est les années 70 avec le tout communicatif.
Et oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que tu parlais des années 60, tout ça. Avec les méthodes directes, est-ce qu'on n'avait pas un meilleur résultat au niveau de la prononciation? Parce que c'était une méthode militaire, pour le coup, quoi.
On avait des résultats, mais c'était très compliqué à manipuler. Il y avait beaucoup de choses à faire, c'était une méthode audiovisuelle, il fallait mettre les vidéos, les petits films, c'était assez compliqué à manipuler, et ça n'a pas donné les résultats qu'on aurait pu escompter.
Avec les films qui fondaient,
Oui. Ensuite, avec le tout communicatif, ça a été un autre problème, puisqu'on pensait que tout était acceptable. Pourvu que les élèves parlent, tout était acceptable. Donc, si la prononciation n'entravait pas trop la communication, les élèves communiquaient. Et puis, on se disait que la prononciation viendrait toute seule au cours des échanges. Bon, ça, c'était... On est passé aux années 80, et aux années 80, les fameux labos de langue ont fait leur apparition. Alors là, ça a été une catastrophe, parce que... Oui, malheureusement, j'en fais partie, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans dans des labos de langue, dans des labos à faire de la phonétique. J'étais professeur à l'université d'Aix, professeur de phonétique dans un labo, et vraiment c'est là que je me suis rendu compte que le travail était complètement déconnecté de la langue. C'était une contradiction pour nous, les profs, parce que les profs qui faisaient le FLE enseignaient à bien construire la langue, et nous, les profs spécialistes, on enseignait à bien prononcer la langue. Donc les uns à bien la construire et les autres à bien la prononcer. Mais bon, les deux choses sont pas dissociables. Donc on disait aux étudiants, apprenez à communiquer, à parler, ensuite vous apprendrez à rythmer la langue. Ce qui est complètement, vu d'aujourd'hui, c'est complètement stupide. Après, dans les années 90, on est revenu à des méthodes intégrées. On travaillait la phonétique en cours, mais qu'est-ce qu'on travaillait? On travaillait uniquement sur les paires minimales et les phonèmes.
Eh oui.
Ça n'a pas donné les très grands résultats non plus. Alors on peut se demander si ça vient aussi de la faute des manuels. Bon, les manuels se sont rendus compte dans les années 90 qu'il fallait mettre un petit peu de phonétique pour être à la mode. Donc on a mis des paires minimales. On a mis de la discrimination et des paires minimales. C'est à peu près tout. Bon, j'étais aussi professeur de FLE, donc on faisait le cours, on arrivait à la fin des leçons quand on travaillait avec des manuels. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sans manuels. Mais quand on travaillait avec des manuels à l'étranger, on faisait le cours avec le manuel, la leçon, on finissait la leçon, et tiens, il restait 3 lignes de phonétique. Allez hop, fin de cours, on faisait 3 petits exercices de phonétique qui servaient absolument à rien.
C'est encore comme j'en ai utilisé des manuels comme ça il y a pas si longtemps et
mon rêve c'est de faire une méthode une progression basée sur la phonétique, une nouvelle méthode avec une progression non pas grammaticale, une progression phonétique. On partirait des sons. Déjà le premier jour on leur dit je suis professeur, vous êtes étudiant, il y a toutes les difficultés sont contenues là-dedans. Je, déjà, ils n'arrivent pas à le dire. Suis, la semi-voyelle, lui, ils n'arrivent pas à la dire. Professeur, il y a le heur. Enfin, bon, dès les premières leçons, ils sont confrontés à un tas de problèmes phonétiques. Il vaudrait mieux faire une méthode basée sur une progression phonétique. Ça, c'est mon rêve. Mais bon, je sais pas si j'aurai le temps de le réaliser.
Non, puis surtout, est-ce que dans ce cas-là, tu ferais la même pour toutes les nationalités?
Alors, non, ça serait adaptable à chaque nationalité, ou chaque groupe de nationalités. Vous savez, on retrouve à peu près les mêmes fautes phonétiques entre les Espagnols et les Grecs. Il y a beaucoup de similitudes. Donc, on pourrait adapter pour certaines, les Asiatiques, bien qu'il y ait beaucoup de différences entre un Chinois et un Vietnamien, mais on arrive à faire travailler quand même les gens par groupe. Donc, il faudrait faire une méthode qui soit adaptable.
Donc oui, Michel, tu disais que tu rêvais de mettre en place une méthode de progression, que ce serait l'idéal pour la phonétique. Et alors, à défaut d'avoir pu réaliser cette méthode de progression, cette progression, tu, ou pas forcément à défaut hein, d'ailleurs, tu as choisi de, d'utiliser le jeu comme, comme support d'apprentissage ou comme base d'apprentissage de la phonétique. Alors ben, justement, pourquoi l'avoir choisi ? Qu'est-ce que ça apporte de particulier à la phonétique ? Quelle est cette utilité particulière ?
Alors, je me suis amusée, comme tu l'avais signalé, Fred, tout à l'heure, vous avez fait déjà deux séries sur la phonétique. Et je me suis amusée à lire les petits commentaires qu'il y avait. Mm-hmm. Et votre, dans la compile de commentaires sur les postcards de phonétique, sont tous des profs de français. Alors imaginez ce que pourraient dire les profs étrangers. Il y en a un qui dit, podcast très utile pour les profs trop nombreux, dont moi, qui ne savent pas vraiment comment introduire la phonétique en cours, et encore moins enseigner. Un autre dit, c'est utile à tous les profs qui, comme moi, oui, je l'avoue, la phonétique fait peur. Pas mal de profs, dont moi, se sentent peu à l'aise avec la prononciation, en fait. J'en ai, comme ça, toute une série. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé, moi aussi, comme j'avais pas les résultats escomptés. On faisait toutes sortes de travail au labo de langue, mais je trouvais que les élèves devaient s'ennuyer à mourir. Quand on leur disait c'est l'heure du labo, ils s'ennuyaient à mourir. Et puis, ça donnait pas les résultats que j'escomptais. Donc, je me suis dit, il faut trouver une autre façon d'enseigner la phonétique. Et surtout, ayant travaillé à l'étranger, il y a des profs. Par exemple, au Pérou, on avait des profs qui n'avaient jamais mis les pieds en France. Et évidemment, ils avaient un peu peur de la phonétique. Alors, pourquoi? Parce que leur formation dans les formations FLE, souvent, la phonétique est présentée. On leur présente, évidemment, c'est un enseignement de phonétique générale, surtout articulatoire, mais on fait pas de la phonétique corrective. On n'en faisait pas. Peut-être que maintenant, ça va un petit peu changer, mais de longtemps, on n'en fait pas. Donc, tous les étudiants de FLE qui faisaient une maîtrise FLE trouvaient que c'était rébarbatif, ennuyeux, et on leur apprenait pas à corriger les fautes, en fait. Donc, cette matière a toujours un aspect négatif. Et moi, ma formation première, c'était l'anglais. J'ai eu un prof de fac, il y a déjà pas mal d'années, puisque j'ai un certain âge, je suis à la retraite, et un prof de fac qui nous faisait jouer sur la langue et sur les sons. Ensuite, j'ai été chargée de ce cours de phonétique à l'université, et puis je n'étais jamais satisfaite. Et ensuite, j'ai rencontré Régine Lorca, qui travaillait sur les rythmements. Et ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, ça, c'est vraiment la façon de travailler de Régine Lorca avec les rythmements. C'est comme ça qu'il faut travailler. Donc, je voulais décomplexer l'enseignement de la prononciation. Mon objectif, c'était, que ça soit plaisant, ludique, et voilà, j'ai appelé ça la phonétique en jouant, mais en fait c'est surtout des activités, c'est un travail actif et créatif pour les apprenants, c'est pas vraiment des jeux au sens jeu de plateau, hein.
Ouais, et justement, tu parlais de jeux, tout ça. Est-ce que t'aurais des exemples un peu pour illustrer ces activités dont tu parles? Quelles activités on peut faire faire jouer nos apprenants et en même temps, qu'ils arrivent à prononcer?
Pour les Asiatiques, justement, l'attention de la voyelle accentuée, finale, n'est pas réalisée, surtout les Japonais. Donc, pour leur faire acquérir cette tension sur la syllabe finale, j'aime bien le jeu de la poubelle qui a été créé par Régine Lorca, où on met la main sur l'épaule, et puis on imagine une grande poubelle au milieu de la classe, où tous les élèves sont en rang autour de la poubelle, et on va jeter un objet ou une personne, hein, on peut jeter le directeur, le professeur, on jette ce qu'on veut. Donc, on a la main sur l'épaule, et au moment où je jette mon téléphone et sur la dernière syllabe, c'est-à-dire phone, j'ouvre la main, je dois ouvrir la main et la mettre en direction de la poubelle. Voilà, alors ce simple geste permet l'allongement et l'étirement de la syllabe. Donc, parce que les gestes aident beaucoup aussi dans la correction phonétique.
Ouais, c'est ça, j'allais dire, là, t'es à mi-chemin entre le jeu et puis les activités un peu de théâtre aussi, quoi.
Voilà. Ça, c'est un jeu qui permet de faire comprendre l'allongement et de corriger cet allongement qui n'est pas réalisé par les étudiants. Un autre que j'aime bien, un autre jeu qui a beaucoup de succès et qui fait prendre aux étudiants conscience du nombre de syllabes et du rythme, c'est toujours tiré des travaux de Lorca, des documents. On fait un tour de table. Une personne dit un verbe, par exemple, il pleut, et le suivant doit reprendre et ajouter une syllabe. Il faut qu'on arrive jusqu'à 7 syllabes. Il pleut, le deuxième dit il pleut fort, le troisième dit il pleut très fort, ensuite il pleut aujourd'hui, il pleut aujourd'hui, il pleut fort aujourd'hui, il pleut très fort aujourd'hui. On arrive à 7 syllabes. Alors ça, ils sont un peu déroutés au début. Mais alors, quand ils ont compris le truc, je vous assure qu'on s'amuse beaucoup avec ce jeu. Ou alors, par exemple, je parle deux syllabes, je parle le français, cinq syllabes, je parle mal le français, je parle très mal le français. On continue comme ça et on s'amuse beaucoup avec ce jeu. Et ce jeu, mine de rien, il permet beaucoup de choses. Il permet le nombre de syllabes, de faire prendre conscience du nombre de syllabes, mais du rythme aussi, et puis la syllabation, parce que c'est très important, la syllabation aussi.
Ah ouais, ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est merci pour tes exemples et c'est super parce que là on a un exemple pour d'un jeu qui est plus adapté à un groupe de nationalité qu'un autre et puis une deuxième activité qui peut servir à tout le monde. Tu différencies souvent ou tu fais jouer tout le monde au même jeu?
Alors, soit je réunis, ça dépend si j'ai un groupe multilingue ou unilingue évidemment, mais je réunis les élèves qui ont les mêmes problèmes autour d'un jeu pendant qu'une autre partie de la classe joue avec une autre activité ou fait une autre activité. Soit on joue avec, on fait la même activité, ça sert de révision pour les uns et puis de progression pour les autres. Et chaque activité jeu ne dure que 5 ou 10 minutes, hein. On en fait plusieurs dans le cours. En fait, je fais pas ça comme les manuels en fin de cours. J'intègre complètement les activités phonétiques dans le cours de feu.
D'accord. À n'importe quel moment, en fait, tu peux faire ta transition vers des activités de prononciation, c'est ça?
Je fais souvent des activités de grammaire aussi qui sont phonétiques. Par exemple, lorsqu'on a fait le passé composé, avec les verbes éteindre, par exemple, étreindre, les verbes comme ça. Quand on fait le passé composé, je fais travailler sur le passé composé. Je l'ai éteint et je fais passer au féminin. Je l'ai éteinte. Je l'ai étreint, je l'ai étreinte. Et c'est une activité phonétique aussi et grammaticale à la fois.
On va renvoyer bien sûr tous les poditeurs à ton blog. Il y a beaucoup beaucoup d'activités. Il faut un petit peu prendre, chercher, fouiller. Et vu que tu parlais un petit peu de ton blog et moi j'ai passé un petit peu de temps et j'ai repéré une expression que tu utilises à plusieurs endroits. Tu parles d'éduquer le souffle. Je voulais savoir, et peut-être que nos poditeurs aussi voudront avoir plus de renseignements, c'est qu'est-ce que tu entends par cette expression? Qu'est-ce que c'est que éduquer le souffle et en quoi est-ce que c'est important?
On oublie souvent qu'on n'a pas d'organes spécifiques pour la phonation. On utilise le système respiratoire et on parle sur la phase d'expiration. Donc, quand on respire, on inspire, on expire, on parle sur la phase d'expiration. Ce qui signifie que l'on prend suffisamment de quantité d'air pour pouvoir parler. Vous me suivez?
Oui, oui.
Mais cette prise de quantité d'air, elle est différente selon les langues. C'est-à-dire qu'on gère sa respiration en fonction de la langue maternelle.
Ah.
Il faut réapprendre à gérer sa respiration en fonction de la nouvelle langue. Et ça peut permettre d'améliorer la prononciation. Donc, gérer la quantité d'air, gérer son souffle, c'est très très important. Le groupe de souffle, c'est un groupe de syllabes que l'on prononce dans un seul souffle sans pause. Et chaque langue possède des groupes de souffles différents. Et ça, on ne sait pas assez. Par exemple, certaines langues ne prononcent que 4 à 5 syllabes. L'espagnol, par exemple, on prononce 4 à 5 syllabes. L'espagnol est capable d'en prononcer plus, mais dans la langue courante, on prononce 4 à 5 syllabes, pas plus. Donc, chaque langue a une façon différente de gérer son souffle. En français, par contre, on prononce de 1 à 7 syllabes dans un groupe de souffle. C'est-à-dire sans reprendre son souffle et sans marquer de pause. Moi, je fais pratiquer des exercices pour arriver à gérer ce souffle et pouvoir prononcer cette syllabe dans un groupe de souffle.
D'accord.
Si je dis « il ne fait pas beau aujourd'hui », j'ai 8 syllabes. « Il ne fait pas beau aujourd'hui », je ne me suis pas arrêtée, j'ai pas fait de pause. Je peux réduire ça à 7 syllabes en disant « il ne fait pas beau aujourd'hui ».« Il ne fait pas beau aujourd'hui », 7 syllabes. Avec des débutants, on a tous l'habitude, tous les profs ont l'habitude de scinder en deux. On va dire, il ne fait pas beau, on respire, aujourd'hui. Donc, on aura 5 syllabes au début, 3 syllabes après, ce qui leur permet de respirer entre les deux parties de la phrase, car ils ne gèrent pas sur leur souffle encore. Par contre, un étudiant avancé devrait être capable de dire cette phrase sans respirer, c'est-à-dire prononcer cette syllabe. Donc, cette gestion de respiration va nous permettre de contrôler les pauses et de mettre en place la tension croissante chez les étudiants étrangers. Cette éducation du souffle est indispensable. Moi, je commençais toujours mes cours par l'éducation du souffle, parce qu'il y a une autre raison, c'est que c'est une technique utilisée pour soulager les états de stress, pour déstresser, désinhiber les étudiants. Donc, quand on fait des exercices du souffle, on se relaxe et on se sent mieux après aussi. Donc, la gestion du souffle, c'est très, très important.
Tu nous as parlé là du groupe de souffle en espagnol et en français. On disait dans ta présentation que tu avais fait beaucoup de formations en Asie du Sud-Est. De manière générale, en Asie, les langues asiatiques, s'il y en a que tu connais, tu sais si le groupe de souffle est plutôt long, plutôt court? Non, parce que Pascaline a enseigné en Asie, moi aussi, donc ça m'intéresse un peu.
Alors, ça dépend des langues. Je me suis un peu intéressée au japonais, surtout. Mais pas trop, bon, c'est très différent, hein, l'Asie, parce que un coréen, un chinois, un vietnamien, c'est avec les vietnamiens que j'ai eu le plus de difficultés, moi, en général, c'est pas du tout la même chose. Mais, non, je sais pas exactement combien y a-t-il là, mais ça, on peut le trouver dans des livres, hein.
D'accord. À étudier, donc.
Voilà, va à la bibliothèque, Fred.
Tu chercheras pour le prochain podcast.
Ce sont mes devoirs.
Fred s'engage solennellement à regarder toutes les langues asiatiques et à trouver les groupes de souffle. Mais ceci dit, ouais, c'est très intéressant, toutes ces histoires de rythme. Moi, c'est ce que j'essaie de travailler parce que je me suis rendu compte que c'était très efficace d'avoir des apprenants qui mettaient d'abord en place le rythme et après, je trouvais que les sons s'apprenaient plus facilement après le rythme.
Bien sûr. Le rythme, c'est la base. Si vous travaillez sur une bonne base de rythme, ensuite l'intonation, les sons sont améliorés directement. Il n'y a pas de problème.
Ouais, c'est flagrant. Vraiment, je conseille aux profs d'essayer parce que on voit la différence assez vite. Et moi, j'ai des classes avec plein de nationalités différentes. Et ça, c'est vrai pour le coup, pour tous, quoi.
Oui, et puis en plus, l'avantage de travailler sur le rythme, c'est que c'est plus simple à s'approprier pour les enseignants qui seraient un petit peu effrayés, qui n'auraient pas de base en phonétique aussi, puis assez simple à mettre en place, et pour les étudiants aussi finalement, donc ça présente beaucoup d'avantages de commencer avec le rythme.
Oui, c'est pour ça que dans mon blog, j'ai essayé de faire, disons, un carnet de recettes, parce que pour avoir rencontré les professeurs à l'étranger, les professeurs étrangers qui enseignent le français, ils sont d'abord, ils ne sont pas sûrs de leur prononciation, donc ils ont déjà une appréhension pour l'enseigner. Et quand ils trouvent des petites recettes comme ça, de faire un jeu comme la poubelle ou faire un jeu comme à plusieurs les histoires tournantes à 5 temps, à 2 temps, c'est assez facile. Et ça améliore énormément la prononciation. Par exemple, une histoire tournante très facile, chaque étudiant doit dire un mot de 2 syllabes, on va assez vite. Alors on dit bonjour, ça va, merci, tu viens, mais où? Mais oui, où ça? Là-bas, n'est-ce pas? J'adore. Pourquoi? T'es où? On s'amuse et on travaille le rythme quand même. Donc ça, c'est...
Ouais, on réutilise des structures de la langue très brèves, en fait, qui sont maîtrisées, et puis on joue avec la langue vraiment. Et du coup, avec le rythme, ça permet aussi de dépasser l'inquiétude de la prononciation. C'est pas mal.
Quand on a appris, vous savez, les trois verbes, là, j'aime, je déteste, qui prennent toujours le et là derrière, quand on apprend ça, on fait un petit jeu. Qu'est-ce que vous aimez? Alors chacun doit dire ce qu'il aime. J'aime la pluie, j'aime le soleil, j'aime le vent, j'aime les amis, je déteste le bruit, etc. C'est un jeu, mais on travaille aussi la prononciation, là, parce qu'on travaille les syllabes. Donc la consigne, c'est dire trois syllabes, ou quatre syllabes, ou cinq syllabes. Je donne des consignes. Vous allez vous répondre avec cinq syllabes. Alors ils comptent sur leurs doigts. Au début, ils comptent sur leurs doigts, mais après, ça va très vite. Ils ont vite acquis le rythme, ils comprennent vite.
Oui, d'ailleurs, ça c'est une bonne idée pour réutiliser les cartes du jeu Agito qu'on mettra dans les liens, qu'on mettra dans les notes de l'émission. Nous, on avait aussi consacré un épisode au diagnostic donc de la prononciation des apprenants. On a vu que c'était un exercice difficile. Comment tu fais, toi, pour évaluer la prononciation? Parce que sur ton blog, j'ai l'impression que tu l'évalues aussi par le jeu.
Ah ben oui, j'évalue par le jeu. Alors, bon, d'abord, je veux mettre une précision, parce que évaluer la prononciation, c'est pas évaluer l'oral. Beaucoup de gens pensent que c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Une évaluation de l'oral, on va juger la fluidité, la richesse du vocabulaire, la syntaxe. Mais évaluer la prononciation, c'est une compétence totalement à part. Ça porte essentiellement sur le rythme, sur l'accentuation, la syllabation, les enchaînements, les liaisons, les sons. Donc, évaluer la prononciation, c'est estimer et mesurer si la prononciation de l'étudiant se rapproche de celle d'un natif. Bon, évidemment, si c'est le prof qui juge, c'est très subjectif. Mais en fait, on va évaluer son évolution à lui, c'est-à-dire qu'on va faire un petit test au début, qui va être un test diagnostique, c'est-à-dire on fait le diagnostic de sa prononciation, et ensuite on va juger de l'évolution de sa prononciation avec un test final qui va nous montrer justement son évolution. Ce petit test diagnostique, moi j'en ai mis un au point que j'utilise le test élaboré par M. Di Cristo, qui l'avait élaboré pour les anglophones. Moi je l'ai un peu amélioré, changé pour le faire que ça soit multilingue. Et on juge le rythme, l'intonation, la syllabation, on juge plusieurs critères là-dessus. Et avec ce même test, j'évalue la compétence finale. Alors, évidemment, on se donne des critères. Si je suis en Espagne ou en Amérique du Sud, le be et le ve se prononcent de la même façon. Donc, je dis, bon, bah, cette année, on va travailler là-dessus. Au début, le texte diagnostique, ils n'arrivent pas à le prononcer. Si à la fin, ils arrivent à le prononcer, ça veut dire qu'il y a eu une évolution. C'est ça, l'évaluation en phonétique. On peut pas évaluer. Sinon, qu'est-ce qu'on évalue?
Ouais, et ils s'en aperçoivent, les apprenants, ou tu les enregistres pour leur montrer avant, après, parce que ça, c'est aussi une partie difficile, hein, de leur montrer qu'ils évoluent, qu'il y a des choses qui s'améliorent.
En fait, ce sont des petites phrases, mais je leur demande de pas les lire, donc ils les apprennent plus ou moins, et pour que ça soit un peu plus naturel, je les enregistre au début, et puis je les enregistre à la fin. Moi, je considère que le travail phonétique a abouti quand l'étudiant est capable d'autocorrection, quand il peut lui-même se corriger, que c'est d'ailleurs qu'il se rend compte lui-même qu'il a fait une faute. Ça, c'est un grand travail à utiliser dans les cours. Quand vous demandez à un étudiant de vous faire de lire ou de raconter quelque chose, on peut pas le couper toutes les trois minutes pour lui dire « vous avez fait une faute là, vous avez fait une faute là ». Alors, il y a une autre méthode, c'est de mettre ses fautes au tableau. Mais une fois que c'est passé, on ne se rend pas compte de ses fautes. Donc, moi, j'utilise les gestes. C'est-à-dire que s'il n'ouvre pas suffisamment la bouche, j'ai un geste. S'il n'arrondit pas suffisamment, j'en ai un autre. Et donc, ils connaissent mes gestes. Et pendant qu'ils parlent, je leur fais des gestes. L'arrondi est mal fait. Donc, ils arrondissent pas suffisamment. Donc, je fais le geste d'arrondi. Hop, ils se corrigent. Ils s'auto-corrigent aussitôt. Donc, ça permet au bout d'un certain temps, ils sont tout à fait capables de se corriger.
Ouais, c'est marrant parce que ça, l'autocorrection, on y pense souvent pour la syntaxe, pour tout l'aspect grammaire en fait, mais très rarement pour la prononciation. Hein. Enfin, moi en tout cas.
C'est dommage parce que il faut qu'ils arrivent. Vous savez, quand ils sont une heure avec vous pendant le cours, bon, vous êtes là pour les corriger, mais dès qu'ils sortent dans la rue, il y a plus personne pour les corriger derrière.
Bien sûr. Ouais,
ouais. Si moi je les suis. Je les suis partout.
Seb, il est partout. Du fait justement que tu les enregistres donc avant après, j'imagine qu'ils se rendent un petit peu plus compte de leur progression. Ça doit un petit peu influencer leur motivation aussi et leur participation aux activités de prononciation, non?
Pour les motiver, moi je prends souvent un exemple de, par exemple si je suis en Amérique du Sud, d'un Sud-Américain parlant français que j'enregistre et que je leur fais écouter. Et ils éclatent de rire. Choisis un en général qui a un mauvais accent. Je pense à un homme politique ou un acteur. Et je leur fais écouter. Donc, pour les motiver. Ils se rendent compte que c'est important, la correction. Après ça, on travaille en commun. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent et comment voulez-vous qu'on les règle. Donc, je les implique. Il faut toujours les impliquer quand on fait de la phonétique. On peut pas imposer la correction phonétique. Il faut la négocier. Ça se négocie. Il faut absolument que l'étudiant soit conscient de ses fautes et qu'il veuille les corriger. Sinon, si vous avez des étudiants en face de vous qui veulent absolument vous corriger, vous pouvez rien en faire.
Ouais.
Même le jeu n'y arrivera pas.
Alors justement, tu parles, Michel, de négocier la correction, l'autocorrection, pour qu'il y ait une vraie implication, une prise en charge de sa correction par l'apprenant lui-même. Pour les apprenants qui ont déjà des erreurs de prononciation fossilisées, est-ce que toi, tu as des activités ludiques spécifiques, des activités ludiques typiques et des exemples à partager avec nous?
Si ce sont des fautes très très fossilisées depuis des années, là il faut carrément un professeur de phonétique.
Il faut opérer.
Il faut pas seulement des jeux, parce que c'est très...
Ouais, à ce niveau-là, donc c'est plus un travail à la base qui est nécessaire justement pour éviter la fossilisation de ces erreurs-là, en fait. Après, on passe à un autre stade dans...
Un autre stade, et là, les erreurs fossilisées, par exemple, je vous donne un exemple, j'ai eu un étudiant grec qui passait une thèse et donc il devait soutenir sa thèse. Il était, toutes ses paroles étaient syntaxiquement correctes, il était incompréhensible, totalement incompréhensible. Et donc il s'en est rendu compte et son directeur de thèse lui a dit c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et je l'ai eu pendant 6 mois. Et je vous assure qu'on a travaillé, il a passé sa thèse quand même. Mais quand c'est fossilisé, il faut d'abord déprogrammer et reprogrammer. C'est un travail de spécialiste.
Et en l'occurrence, là, dans le cas de ce garçon, il n'avait jamais eu de cours de phonétique de prononciation. Donc au fur et à mesure de son apprentissage de la langue, il avait donc consolidé ses erreurs de prononciation.
Ah ben, il n'a jamais eu de cours. Vous savez, il y a des centaines de pays où on connaît même pas le terme phonétique. Ça n'existe même pas. En Grèce, vous savez comment se passent les cours de français? En Grèce, ils sont 80 dans la salle et on répète. Comme dans beaucoup de pays asiatiques.
Oui.
Ouais. Ouais.
Et on fait des répétitions et on pense que ça va apporter quelque chose. Il y a beaucoup de travail à faire encore.
Oui, tout à fait. Et justement, à ce propos, ces activités ludiques que tu mets en place, ce travail sur le rythme et sur la prononciation, on peut le mettre en place sur des petits groupes ou sur des grands groupes? Tu dirais qu'il y a un maximum de personnes pour qu'il y ait une certaine efficacité, en fait, de ces jeux?
Moi, je travaille en général entre 15 et 20 personnes.
D'accord.
Ça devient ingérable. Et puis, on peut plus corriger individuellement.
Oui. D'accord.
Donc, entre 15 et 20. Si j'ai des très grands groupes, je fais deux activités différentes. Pendant que je m'occupe d'un groupe, l'autre groupe, autre chose, etc.
D'accord. Pour te concentrer et pour maintenir cette concentration sur les individus.
Pour conclure ce dossier, il y avait quelques questions sur le forum de la communauté à Agito, avec notamment Bruno qui avait des apprenants qui avaient des problèmes récurrents, notamment pour la distinction entre E et E, U et U, presque classiques peut-être, j'ai envie de dire. Michel, tu aurais des conseils à lui donner pour ces apprenants ?
Pour le U et le U, par exemple, Bruno disait qu'il avait un problème. Le U, c'est un I, en fait. Le U, c'est un I qui est fait avec la bouche arrondie. Donc on part du I et on arrondit la bouche. On ne bouge rien, on fait I, U, I, U. Ça, c'est si un étudiant n'arrive pas à prononcer, c'est-à-dire la production. S'il n'arrive pas à entendre, il faut améliorer l'acuité. Donc on va lui mettre le son U dans une phrase interrogative. Par exemple, tu l'as bu, tu l'as lu, tu l'as vu, qui va permettre d'augmenter l'acuité. Moi, j'utilise des méthodes articulatoires et MBT en même temps. Parce que il y a des problèmes de production, il y a des problèmes de perception. Donc, pour la perception, il vaut mieux utiliser les méthodes verbotonales et pour la production, les méthodes articulatoires. Donc, je mélange un peu les deux, j'utilise un peu les deux. On va augmenter l'acuité, ou alors on va lui faire prononcer le U de façon très aiguë, en montant la voix, et vous, de façon très grave, pour bien lui montrer que le U est très aigu. Voilà, ça c'est un des trucs. Il avait aussi des problèmes avec E et E. Ça c'est une question en articulatoire, par exemple. E, c'est une voyelle étirée, et E est une voyelle ouverte. Moi, je n'utilise pas les paires minimales parce que je trouve qu'elles compliquent beaucoup les choses, parce qu'on leur donne deux sons qui sont très similaires. Donc moi, je travaille pas sur les paires minimales, mais je travaille sur les lèvres soit étirées, soit arrondies. Par exemple, si je travaille le E, qui est une bouche arrondie, je vais travailler en même temps le E. E, E. C'est-à-dire l'aérobique de la bouche. Hein. E, E. Si je travaille sur le E ouvert, par exemple, je vais travailler sur le E et sur le E. Je lui conseille d'aller voir mon blog et de trouver quelques exercices un peu spécifiques.
Merci beaucoup pour ces conseils, Michel. Il y a Anneline aussi, on remercie Anneline qui a essayé de venir en aide à Bruno et qui d'ailleurs, vu qu'on en a parlé pendant l'émission, dit que voilà, la phonétique c'est le corps, c'est de l'intime, il faut s'amuser pour créer des conditions favorables. Je pense que ça colle complètement à au message qu'a essayé de nous faire passer Michel.
Ouais, absolument, je suis tout à fait d'accord.
Eh bien, je pense qu'on arrive, presque au terme de notre émission consacrée à la phonétique en jouant. Alors, on a appris pas mal de choses, notamment sur ces activités ludiques, sur le travail du rythme, sur la négociation pour obtenir une implication dans l'autocorrection. Et Seb, tu vas nous donner des conseils pour pouvoir aller plus loin et continuer cette réflexion qu'on a entamée ensemble.
Oui, alors dans cette rubrique pour aller plus loin, on va d'abord parler du site, effectivement, la phonétique en jouant, le site de Michel, qu'on vous recommande. Moi, j'ai aussi beaucoup apprécié tous les liens que tu donnes à faire découvrir et tous les billets aussi, les exemples d'activités et les fiches imprimables. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources sur ton site. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour en parler ?
J'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à mettre, mais bon, ça prend énormément de temps. Et malheureusement, j'aurais aimé faire une communauté de phonétique. C'est-à-dire que tous les gens qui... Il y a eu 26 000 visites sur mon site en 2 ans. Donc, je pensais que les gens allaient faire une communauté dans le forum. Et le forum est resté désespérément vide. Donc, je pense que les gens sont uniquement intéressés par les recettes. Ils vont tout de suite sur Fiche Imprimable et sentir une. Mais ils ne participent pas, donc il y a des professeurs, puisque j'ai un Wookie ou avec l'origine des visites, je sais qu'il y a des visites de à peu près tous les pays du monde, Et j'aurais aimé justement que chacun mette dans le forum ses problèmes, dise moi j'ai tel problème avec tel truc, qu'on puisse s'échanger. Et ce forum est resté, il reste désespérément vide. Donc j'invite tout le monde à le remplir.
À faire vivre la communauté phonétique.
Ouais, d'ailleurs, le premier post du forum, c'est de deviner le rébus. Et moi, j'ai deviné, mais parce qu'il y a un rébus sur l'entête du site, mais c'est vrai que je n'ai pas osé le noter.
Très bien, parce qu'il n'est pas facile, celui-là.
Ah ben, il faut connaître la musique, ouais. Et puis, il faut connaître un peu les insectes. Sinon, pour continuer un petit peu dans les ressources que moi j'ai pu trouver, j'aimerais bien vous parler aussi de Interactifleu. Alors bon, j'hésite un peu parce que Interactifleu, le site a fermé, mais peut-être qu'on retrouvera les ressources pour Tableau Interactif sur d'autres sites. Hein. Je pense avoir entendu parler que les ressources qui avaient été créées pour ce site ne seront pas perdues. Mais j'ai trouvé le compte YouTube, pardon, d'Interactifleu n'est pas fermé, lui, et il y a toujours une vidéo d'un jeu justement en phonétique qu'on peut utiliser avec le Tableau Interactif. Alors c'est assez intéressant. C'est en fait une espèce de grille avec des parcours à faire avec les sons des, là c'est le son des nasales, et donc par exemple les apprenants doivent passer d'un point A à un point B en passant dans la grille avec des images en utilisant toujours le son on. Le son on, c'est pas facile à dire. Et donc il y a des images de lion, de tas de trucs comme ça. Et s'ils sont pas sûrs, ils peuvent aller sur le tableau interactif, cliquer sur la carte pour voir s'il y a vraiment ce son, et ainsi se faire un parcours. Et puis il y a une autre variante qui est en fait de faire dicter aux apprenants donc un parcours, toujours sur le même principe avec tout le son en ou le son on. Et puis l'apprenant qui est au tableau va devoir écouter donc les instructions, donc Lyon, machin, et puis dessiner tout le parcours pour aller à l'arrivée, à la sortie du labyrinthe. Donc, je trouvais que c'était une activité sympa de phonétique, et surtout une activité en utilisant intelligemment le TBI, autrement qu'en simplement en projetant comme un vidéoprojecteur. Quoi. Là, il y avait vraiment l'aspect tactile, et puis surtout, c'était les apprenants qui l'utilisaient, et pas seulement le prof. Donc une petite vidéo d'une activité Interactifleu que je vous recommande d'aller voir, ça pourra vous donner des idées si vous avez un tableau interactif et que vous voulez travailler le jeu et la prononciation. Fred, t'avais une ressource aussi que tu voulais nous présenter.
Oui, ça s'éloigne parfois un petit peu de la notion de jeu hein, pour la phonétique. Il y avait deux sites, pardon. Il y avait le site que beaucoup de monde doit connaître, Phonétique, qui s'appelle Phonétique tout simplement, qui est hébergé sur Free, avec des petites activités en flash. C'est plutôt orienté pour les apprenants, hein, mais il y a un mode d'emploi aussi pour tout ce qui est enseignant. Et je me souviens, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Bon, il y a des virlangues, il y a aussi des petits jeux. Il me semble qu'il y avait par exemple un jeu de la secrétaire où on est un peu la secrétaire du patron et on doit écouter ce qu'il nous dit et arriver à bien le retaper. Donc il y a peut-être des petites activités ludiques en plus ou moins en autonomie pour les apprenants qui leur permettront de travailler un petit peu les différents phonèmes et d'autres éléments de la langue. Mais on s'éloigne un petit peu, je trouve, du sujet du jour. Mais bon, jetez-y un coup d'œil si vous ne le connaissez pas. Et puis après, très rapidement aussi, sur TV5 Monde, dont on parle un peu plus rarement sur Agito, parce que tout simplement, ils savent communiquer énormément sur leur contenu. Vous avez déjà dû voir passer leur mémo de phonétique. C'est des vidéos assez courtes, très, très, très sobres. Moi, je me souviens toujours de cette vidéo de cet homme qui est un peu sur presque un fond noir. Bon, c'est sur des. Qui vont présenter différents sons et différentes manière, on va dire, de faire comprendre, d'aborder la prononciation et les différences entre différents sons. Et en plus de ces mémos phonétiques, on peut trouver, alors là je rentrerai pas, j'en ai un petit peu cherché pour voir ce que ça donnait, il y a plusieurs des activités, donc toujours sur apprendre le français, hein, avec TV5 Monde, qui parfois, vous savez, c'est toujours un peu le principe sur TV5 Monde, il y a une vidéo et il y a un quiz, on doit répondre à des questions de compréhension orale, mais il y a aussi des activités suite à ces vidéos, où on doit identifier plus ou moins les groupes rythmiques, savoir combien il y a de groupes rythmiques, l'intonation aussi, est-ce qu'à la fin de la phrase donc ça monte, ou de l'énoncé ça monte, ça descend, combien est-ce qu'il y a de pauses. Donc bon, en cherchant un petit peu, je trouve qu'il doit y avoir, je pense qu'il doit y avoir plusieurs activités qui pourraient éventuellement aider certains de nos apprenants à travailler leur prononciation. Et on revient sur le principe des groupes rythmiques dont on a parlé dans l'épisode.
Tu disais qu'il y avait des virelangues dans le site, mais bon,
oui.
Les virelangues n'ont jamais amélioré la prononciation.
D'accord.
C'est des techniques théâtrales, mais même les Français n'arrivent pas à les dire. Comment voulez-vous que les étrangers arrivent à les dire ?
C'est vrai, c'est pas faux. Ben, merci pour cette remarque, parce que je pense qu'on est plusieurs à en avoir utilisé et à peut-être en utiliser encore en cours. Donc
ouais, je pense que c'est assez facile à utiliser. Et du coup, quand on ne sait pas trop comment faire de la phonétique, on a recours à ces virelangues. Ils ont plus un côté théâtral, ludique, mais c'est vrai qu'au niveau de la prononciation...
Alors ouais, une dernière ressource pour moi, c'est la page de Régine, bah, pour rester sur le thème des jeux et de la prononciation. Donc Régine, sur sa page, donc c'est une petite page consacrée à la prononciation, c'est Régine Meladza qui fait ça, et elle propose des jeux de cette famille sur les sons. Donc voilà, on a tous connu des variantes de jeux de cette famille. Elle propose 5 séries sur... alors il y a la première série qui est sur les voyelles, la deuxième série qui reprend les nasales, etc. Donc il y a plein de jeux de cette famille prêts à découper, à télécharger, à découper pour faire travailler ces sons. Donc dans la famille du A par exemple, hein, je demande, et puis vous avez des tas de dessins sur les cartes. Voilà, une bonne façon de voir un jeu de phonétique aussi, en plus du blog de Michel.
Et bien voilà, c'est terminé pour ce numéro 8 des Agités du Fleu. Merci encore à Michel d'avoir été présente et d'avoir partagé avec nous tout son savoir-faire. On n'oublie pas ton appel à cette communauté phonétique internationale. Vous retrouverez d'ailleurs tous les liens dans les notes de l'émission et sur le site Agito. N'hésitez pas, comme toujours, à nous laisser un grand nombre d'étoiles dans les commentaires sur iTunes. Vous pouvez bien sûr laisser des commentaires sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, et sur PodCloud. La discussion se poursuit dans les commentaires sur le site Agito, donc l'occasion de partager entre nous et puis peut-être de se poser d'autres questions auxquelles on aura peut-être l'occasion de répondre plus tard dans une quatrième émission sur la phonétique. Donc sur le site Agito et sur la communauté. Et on vous dit tous à très bientôt pour de nouveaux épisodes et d'ici là, bon cours.
Bon cours,
bon cours à tous, merci Michel.
Au revoir.
Merci Michel.
Au revoir.
Merci à vous.